C'est la fin de la dépendance à un joueur. Le Paris Saint-Germain a maintenant la possibilité de frapper de tous les sens. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence, contrairement aux années précédentes. C'est le fil rouge de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de pas mal de choses, du mercato d'hiver. On va parler de Vitinha, on va parler de l'homme en forme du côté du RB Leipzig, Monsieur Xavi Simons, qui est encore un joueur du Paris Saint-Germain. On espère qu'il va le rester. On va parler un petit peu du match de demain, avant-match PSG-Brest à 13h demain. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, on aura Dryas, on aura Lolo, on aura Kev Zor et probablement Rekoba. Donc, on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Messieurs, c'est la fin de la dépendance aux joueurs. Dryas, on a vu, par exemple, à Dortmund, Hakimi a fait la différence. On a vu que face à Milan, c'était Zaïre Emery. Hakimi était moins en forme. On a vu dans plusieurs matchs, par exemple à Marseille, Mbappé, il n'était pas là. Au final, on les a écrasés quand même. Contrairement aux années précédentes, on avait, par exemple, dès que Neymar, il n'était pas là, c'était n'importe quoi, par exemple. Est-ce que tu penses que cette année, le fait que la menace, elle vient de partout, ça rend le PSG imprévisible ?
Imprévisible, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ouais, on est sorti de cette espèce de cycle au niveau offensif. C'est-à-dire que l'absence d'un joueur peut être palliée par d'autres joueurs. On a couvert plusieurs postes à ce niveau-là. On a des doublons qui apparaissent, pas des doublons, des solutions de remplacement qui apparaissent partout. Et comme tu le dis, il y a de plus en plus d'apports. On peut parler d'Hakimi, on peut parler d'un Vitinha qui essaie d'être plus offensif, on peut parler d'un Warren Zaïre-Emery qui apporte des trucs devant. Maintenant, au milieu, la dépendance n'est pas encore résolue. Après, il ne faut pas s'attendre à passer de là où on était l'année dernière à tout de suite un équilibre qui est parfaitement équilibré avec tous les postes qui sont doublés partout en une saison. C'est déjà énorme ce qu'on a réussi à faire en une saison. On est sur la bonne route de la fin de la dépendance. Mais pour moi, on n'y est pas encore tout à fait.
Lolo ?
Ouais, c'est... Moi, je suis content parce que on est dans une période de reconstruction sur le point de vue de l'effectif. Moi, je l'ai dit depuis plusieurs lives avec vous, quoi que ce soit, je suis très content en fait de la polyvalence en fait que l'effectif a. C'est-à-dire que imprévisible, ce serait un peu trop fort, mais tu sais que tu as beaucoup de forces qui peuvent monter en puissance et donc du coup, tu permets en fait d'être un peu moins lisible. Là où sur ces dernières années, en fait, on savait que c'était les trois de devant, parfois deux, mais surtout les trois de devant, et que voilà, toute l'attention, notamment des adversaires, était que sur eux. Là, le danger peut venir de nos latéraux, le danger peut venir d'un Warren qui est en forme, d'un Ugarte qui va faire la différence, d'un Vitinha peut-être qui peut faire la différence, et on l'a vu avec l'impact avec ses buts, notamment contre Rennes. Des mecs de devant aussi, donc moi je suis très content de la polyvalence de cet effectif-là en tout cas.
Kev Zor, toi qui viens de nous rejoindre, même si tu essaies de gâcher mon visuel avec ta tête là.
Non, la cam va arriver, laisse-moi 5 minutes.
Vas-y.
Du coup, salut tout le monde. Non, mais en fait, avant tout, même si certaines individualités peuvent nous débloquer certaines situations, on l'a vu, le premier but face au Milan AC, c'est un exploit d'Mbappé. On sent quand même une vraie volonté de créer un collectif de la part du staff technique et du coach. Et c'est là où, peu importe en fait, les joueurs qui seront sur le terrain, on sent quand même que quelque chose essaie de se mettre en place sur un plan collectif, que ce soit sur l'aspect défensif où tu sens que les joueurs veulent défendre toujours de la même manière, veulent ressortir les ballons de la même manière, veulent attaquer de... En fait, on veut imposer un style qui est intéressant. Et en plus de ça, comme l'a dit Dryas, on a quand même des joueurs polyvalents sur le banc. Il faut aussi savoir que pour le moment, on a très peu vu Kangin par rapport à sa blessure et au jeu asiatique. On a Asensio qui est blessé, qui n'est pas encore de retour. On a Nuno et Kimpembe qui n'ont pas fait encore une seule minute. Donc on a quand même un effectif qui pourrait être encore plus intéressant quand tous les joueurs seront disponibles et apporter une certaine polyvalence à pas mal de choses. Donc moi, je trouve que c'est intéressant. C'est pas mal. Maintenant, il est vrai qu'avoir des joueurs qui sont en capacité de faire des différences et de te faire gagner des matchs, c'est encore mieux dans un collectif.
Ok, Rico, toi qui nous as rejoint, je te repose la question. Est-ce que maintenant qu'on a pu, plusieurs joueurs qui peuvent faire la différence. Est-ce que ça rend le PSG un peu plus imprévisible? Et par exemple, je me rappelle la dernière fois, il y avait des plans, par exemple, anti-Neymar ou un plan anti-Mbappé face au Bayern, notamment. Est-ce que là, maintenant qu'on a vu un Hakimi qui a fait la différence à Dortmund ou que Zaïre Emery qui a été prépondérant dans le match face à Milan, est-ce que tu penses qu'on est plus dangereux et plus imprévisible?
Oui, forcément, ça me fait penser aussi à l'équipe de France où tu as Giroud, tu as un Colomoigny qui peut rentrer, tu as Coman Dembélé, tu as Mbappé, tu as même les milieux de terrain, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann qui marquent. Donc forcément que ta palette, elle est plus large offensivement. En plus de ça, tu as, comme le disait Kevzor, tu as des joueurs qui sont vraiment polyvalents. Et puis surtout, aujourd'hui, tu as un banc. Quand je voyais le banc face au Milan AC, bon, bah, tu as quand même du Gonçalo Ramos, du Kangin Lee. Au final, ces mecs-là rentrent et ces mecs-là sont décisifs. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, tu as quand même un banc qui peut aussi t'aider dans les matchs où c'est un peu plus compliqué. Alors après, en termes d'effectifs, moi, je suis un peu plus alarmiste quand même parce que c'est vrai qu'on peut bénéficier de la polyvalence de beaucoup de joueurs qui peuvent jouer, pardon, qui peuvent jouer devant, ailier, au milieu et à plusieurs postes en attaque. Et donc ça permet d'avoir quand même une... que ce soit une rotation ou plusieurs cartouches dans notre poche. Mais il y a certains joueurs quand même et certains postes où, si jamais ils sont absents, si jamais ils viennent à être blessés, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est l'aspect du secteur offensif, effectivement, on a quand même pas mal de cartouches. On peut jouer à 3, à 4. On peut jouer avec un Asensio. On peut jouer avec plus de profondeur avec un Colomoigny. On peut jouer avec un Ramos qui est plus attaquant de surface aussi. Donc, ça aide. Et puis, sur les côtés, tu as quand même du Kangini qui peut être là, du Barcola, du Mbappé, du Dembélé. Donc, c'est bien. On a beaucoup de cartouches offensives, beaucoup de diversité. Mais attention aussi, notamment au milieu de terrain, où je trouve qu'il manque quand même des joueurs.
Non, est-ce que vous voulez réagir?
Ouais, rapidement. La question, c'était surtout sur...
Ouais, ah bah,
pardon, je t'avais pas entendu, excuse-moi.
Il n'y a pas de souci. Mais déjà, je voulais dire à Réco qu'il faut arrêter le champomis le vendredi soir. Et sinon, je partage pleinement l'avis de Réco. Et ce qui me pose un tout petit peu problème dans la manière avec laquelle tu présentes la chose, Nyx, c'est la notion d'imprévisibilité. Autant je la retrouve au niveau offensif, autant si on revient par exemple contre Milan et d'une manière générale contre nos matchs, il y a souvent des temps faibles dont l'équipe adverse ne sait pas profiter. Et ces temps faibles incluent beaucoup une difficulté à ressortir, de ressortir de l'arrière. En fait, une fois qu'on est pressé haut, on a beaucoup de difficultés à ressortir de l'arrière. Et si on est imprévisible, en fait, une fois qu'on a passé les 40 mètres, où effectivement ça peut venir de partout, on est relativement prévisible tant qu'on n'a pas passé ces 40 mètres. Et je veux insister sur Eco, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est vrai, alors même moi, je n'avais pas parlé de derrière, mais devant, effectivement, on peut tourner dans tous les sens. Au milieu, on a des solutions qui apparaissent, mais il y a aussi certaines limites et il y a aussi certains profils qui nous manquent qui font que, pour l'instant, ça peut tout sauter un petit peu quand on est encore dans nos 30.
Vas-y, Kev.
Non, ce que j'allais dire, c'était que, en fait, si je ne me trompe pas, on était plutôt sur un plan offensif au niveau de l'imprévisibilité. Et de toute façon, on a tous ce même constat au milieu de terrain. Il nous manque encore ce petit truc. Mais c'est vrai qu'on prend le 11 de départ contre le Milan AC. Sur le banc, tu as quand même Gonçalo Ramos, Kangin, tu as Barcola. Et en plus, tu pourras avoir Asensio, donc offensivement, ça te donne quand même quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi vous rigolez? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ou...
Non, c'est un commentaire.
Ah, putain, je ne les vois pas sur le téléphone. Mais voilà.
Ok. Lolo, il y a Amitouche Bachar qui nous disait « La question est intéressante, mais est-ce qu'on ne voit pas la chose de cette manière parce que des joueurs répondent présents cette saison ?»
Oui, je te dirais oui dans ce sens-là, mais t'as surtout, comme disait Kev, l'aspect collectif, en fait, le staff et on voit que le PSG travaille pour pouvoir mettre un collectif là où, très clairement, c'était plus une addition d'individualité il y a encore quelques années ou même l'année dernière. Et donc, du coup, en fait, bizarrement et même logiquement, tout simplement, en fait, les joueurs se sentent déjà un peu plus concernés, se sentent présents. Ils ont la qualité pour pouvoir aussi s'affirmer. Et après, quand tu mets des bons joueurs aux bons endroits, avec une bonne tactique, bah, au final, ça file droit avec un coach qui est le général et qui avance tous en même temps. Donc, non, c'est en soi, c'est normal, mais c'est plus l'aspect collectif qu'il faut souligner parce qu'on ne l'avait pas ces dernières années. Et qu'au final, bah, maintenant, là, en fait, on c'est quelque chose de bête, mais le Paris Saint-Germain, là, est en fait, est en train de créer une équipe logique. Et en fait, sur les dernières années, on était en train de s'entêter à vouloir parfois gagner des Ligues des Champions ou avoir des croyances qui étaient assez hautes, alors qu'en fait, on était dans l'illogique totale. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de coach, on n'avait pas de tactique, on n'avait pas d'aspect collectif, on n'avait pas de jeu, on n'avait pas de. Enfin, bref, on était vraiment juste je prends un tel. On est dans FIFA, quoi. On est dans FIFA, on est dans Ultimate Team, et on essaye de construire le meilleur collectif possible, mais on n'a pas de lien. Voilà, bah, c'est exactement ça. Donc là, c'est ce que je veux retenir, c'est surtout le collectif qui est en train de se créer là, au Paris Saint-Germain, et qui est fait par le staff technique.
Et si je peux ajouter, c'est ce que tu disais au début, Nick, c'est qu'il y en a déjà qui ont des moments, des matchs où ils sont moins bons, et à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais. C'est là où vraiment, enfin, pour moi, le verre à moitié vide, c'était le milieu dont je parlais tout à l'heure, mais le verre à moitié plein, c'est qu'effectivement, on n'est plus tributaire d'un joueur pour être capable de marquer un but. C'est vraiment ce que tu mettais en avant. Et donc, le fait d'avoir effectivement des joueurs qui vont inévitablement avoir des jours de moins bien, eh ben, il y en a d'autres qui savent répondre présent. Et en plus de ça, à partir du moment où tu arrives à instaurer ça, tu instaures un cercle vertueux parce que, bah, du coup, comme l'autre, il est capable de planter un but, bah, tu as plutôt intérêt à planter ta but ou en tout cas à être décisif. Du coup, les joueurs sont plus impliqués sur le terrain et d'une certaine manière, tu tires vers le haut tout ça. Il y a juste la problématique du milieu, mais sinon, au niveau offensif, justement, on n'est plus tributaire d'un joueur, on n'est plus tributaire d'un état de forme, on est tributaire d'un état d'esprit, de ce que Lolo mettait en avant, d'une dimension collective. Et ça change tout. Sur les années précédentes, pour aller dans ce que disait Lolo, c'est au-delà FIFA et tout, c'est qu'on construisait nos effectifs que par l'offensif. C'est comme si l'offensif allait résoudre le game du football et on ne réfléchissait pas du tout d'une autre manière. Là, on s'aperçoit que, ben mine de rien, on apporte des forces à la fois derrière et même au milieu, même si j'avais cette critique du milieu. On peut notamment parler de Hakimi qui va monter, qui va se recentrer au milieu, qui va être une force de proposition, plus seulement sur l'aile, mais aussi par le milieu et par des frappes. T'avais Soler qui l'a remplacé pour faire la même chose, qui a été très cohérent. Et d'une manière générale, il y a beaucoup plus, même si encore une fois, on n'y est pas encore arrivé, mais beaucoup plus de cohérence dans cet effectif que les années précédentes.
Si je peux me permettre aussi, et ça, je trouve que c'est hyper important cette saison, malgré que, comme l'a dit et a fini Drias, hein, il nous manque encore des choses, mais tout ne peut pas faire. Rome ne s'est pas créé en un jour. Sur le plan offensif, moi, ce que je vois, c'est qu'en termes d'attitude, il n'y a pas de joueurs qui sont en concurrence les uns envers les autres et qui se boycottent. Et ça, je trouve ça hyper, hyper, hyper important, parce que tu pourrais être amené. Parce que je dis une bêtise, Barcola est en concurrence avec un autre joueur, Ramos et Colomani, on sait plus ou moins qu'ils sont en concurrence, et ils pourraient, entre guillemets, se boycotter, etc., etc. Et on a vu que contre Marseille, quand Mbappé est sorti, et que du coup on a eu un poitrier d'attaque différent, eh bien, les joueurs ne se sont pas boycottés, et ont eu envie de se faire également marquer, et ont respecté un petit peu le football. Et ça c'est hyper important, en sachant que on sait très bien que tu peux vite tomber dans une espèce de comment dirais-je, d'attitude un petit peu soliste et individuelle qui mettrait en dépit le collectif.
Ok, messieurs. Ouais, j'étais pas trop d'accord avec Draya sur le côté offensif uniquement, parce que comme j'ai dit, à Dortmund, c'est Vitinha qui brille face à Milan, c'est Zaïre Emery qui brille, contrairement à quand on avait l'absence de Verratti, c'était un peu n'importe quoi. Mais bref, on a une liste de sujets à suivre, donc on va avancer sur le prochain sujet, les gars. Quelque chose qui m'a frappé dans le match face au Milan AC, j'ai remarqué que le Paris Saint-Germain était beaucoup plus dangereux. Enfin, je l'avais déjà remarqué depuis ce mercato, puisqu'on n'était pas forcément fan de l'option Luis Enrique à la base. Mais on a quand même remarqué que ce Paris Saint-Germain est beaucoup plus dangereux en phase de transition. Et on se rend compte que Luis Enrique, c'est un joueur, un coach qui aime rester dans son système de possession, ce qui nous a fait un peu mal à Newcastle. Comme j'avais dit à l'époque, on aurait pu sauter le premier mur, mais on s'est entêté à sortir des petites passes derrière pour pouvoir le contourner. Et j'ai vu la même chose face à Milan, jusqu'à ce qu'on a commencé à jouer en transition, et là, on leur a fait très, très, très mal. Et en fait, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il faut laisser carte blanche à Luis Enrique au prochain mercato Parce que s'il continue à s'entêter dans cette façon de jouer, peut-être qu'il lui faut les joueurs adéquats. Contrairement à jusqu'à maintenant, où c'est plutôt Luis Enrique et Nasser qui ont fait le mercato de Luis Enrique. S'il veut continuer à jouer à la possession, on a vu que notamment dans la relance derrière, ou que ce soit au milieu de terrain, on a énormément de mal à garder le ballon et on a énormément de déchets. Est-ce que pour vous, il faut laisser Luis Enrique choisir ses recrues pour pouvoir jouer le football qu'il veut jouer? Tout simplement, je te laisse la parole, Rico.
Bah oui, parce que déjà, on a vu par le passé que de faire le mercato à la place des entraîneurs qu'on a en place, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, on l'a tous voulu, on l'a tous réclamé qu'il fallait donner les clés du camion à un seul homme. Aujourd'hui, c'est Luis Enrique, le projet est autour de lui et c'est autour de lui qu'il faut continuer à animer ça et lui laisser les clés pour pouvoir recruter les joueurs qu'il a besoin. C'est lui qui est au contact des joueurs tous les jours, c'est lui qui voit le mieux jouer l'équipe, c'est lui qui se refait les matchs 150 fois avec son staff pour voir quels défauts il y a, etc. et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc évidemment qu'il faut lui laisser les clés et lui permettre de recruter les joueurs qu'il a besoin. Faut quand même souligner aussi que c'est un entraîneur, malgré qu'il soit têtu, qui arrive quand même à s'adapter. Aujourd'hui, il n'a pas vraiment le choix de s'adapter parce que, comme on l'a dit souvent, et c'est pour ça qu'on était peut-être réticents à le voir à la tête du PSG, c'est que tu as énormément de joueurs qui sont très forts dans la transition et pas dans la possession. Il essaye de s'adapter au maximum et de rajouter aussi sa touche à lui, ses préceptes de jeu et d'en faire la meilleure mayonnaise possible. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut, le laisser travailler, lui faire confiance et qu'il puisse continuer de pouvoir faire grandir cette équipe, recruter les joueurs qu'il a besoin. Et moi, je pense qu'à terme, ça marchera. Au Barça, il s'est adapté comme il fallait aussi. Il avait la MNM devant et il avait Rakitic qui permettait de faire ce lien offensif milieu et qui permettait justement d'accélérer le jeu très souvent. Et au final, avec le Barça, si on regarde le Barça de Luis Enrique, il y avait énormément de transitions. Donc non, je pense qu'il peut s'adapter à ce qu'il a sous la main et continuer de faire progresser cette équipe au quotidien et en l'améliorant aussi avec le mercato. Mais pour moi, ce serait une erreur que de lui imposer des joueurs, tout simplement.
L'Oréal, t'es du même avis? Tu penses qu'il faut lui laisser carte blanche ou est-ce qu'on essaie d'adapter les joueurs qu'on a déjà au style de Luis Enrique?
Ah non, laissons-le travailler. Qu'est-ce qu'on va faire encore, aller empiéter dans ses pattes ou quoi que ce soit? Non, pour une fois, on a confiance. Il faut le laisser installer les choses. Il faut le laisser avancer tranquillement, prendre le temps qu'il puisse aussi prendre la qualité de son effectif avec tous ses joueurs. Il y a des joueurs qu'on n'a pas beaucoup vus, en tout cas dans cet effectif-là. Je pense à un Cher Endur qui n'a pas assez joué. Je pense à un Fabian Ruiz qui s'est contenté de faire juste quelques rentrées. Et on ne l'a pas vu forcément dans des positions, par exemple, de titulaire avec une équipe sortie vraiment titulaire. Il y a plein de choses à prendre en compte dans tout ça. Il y a le retour de certains blessés, enfin... Pour moi, on a l'équipe et on a la polyvalence de pouvoir faire les deux jeux possibles, c'est-à-dire avoir un jeu de position et aussi avoir un jeu de transition assez fort, puisqu'on a les joueurs pour la transition. Donc je pense qu'aussi, il faut laisser le temps à Luis Enrique de pouvoir s'imprégner de ça, comme a dit Rico, de faire sa petite mayonnaise. Et je pense que c'est que comme ça qu'on va être très fort, parce qu'on sera peut-être encore plus imprévisible avec des joueurs et avec plusieurs systèmes qui vont permettre d'aller vers l'avant et de faire mal à tous les adversaires possibles. Donc non, il faut le laisser travailler et puis après on verra par la suite.
Kev, je te laisse enchaîner et Dreyas, tu termines.
Vas-y Dreyas, prends ma place pour le moment.
Ok. Mince, j'ai trop de mémoire.
La question c'est est-ce qu'il faut laisser carte blanche à oui. Luis Enrique ou est-ce qu'il faut adapter les joueurs qu'on a déjà au jeu de Luis Enrique?
Pour la première partie de la question, il y a aucun doute. Mais ça a déjà été dit par Ecoba. On faisait tout à l'envers avant et après c'est dans un monde parfait. C'est pas le coach qui nomme les joueurs, mais le coach nomme ses besoins au directeur sportif et le directeur sportif va trouver des solutions par rapport aux besoins qui sont nommés dans le coach. Et si ça fonctionne comme ça, ça sera juste un énorme step up par rapport à ce qu'on faisait avant. Maintenant, je voulais revenir sur le jeu de transition. Et je pense que là, le jeu de transition semble être la seule réponse parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il ne faut pas oublier que Luis Enrique, notamment, on a vu, il ne faut pas oublier qu'il est têtu quand même, hein, son 4-2-4, et notamment la manière avec laquelle on commence contre Milan, qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qu'il essaye, qu'il réessaye. Et il aimerait bien essayer de trouver autre chose qu'un jeu de pure transition, mais je ne suis pas sûr qu'on ait l'effectif à l'heure actuelle pour réagir un peu par rapport à ce que disait Lolo. Il nous manque peut-être certains apports pour pouvoir vraiment jouer un jeu de position avec des transitions qui ne sont pas aussi longues et évolution de tout un bloc qui permet de contourner le système défensif adverse. Et je voulais juste réagir là-dessus. Maintenant, sur la question, bien sûr, le fait qu'on ne fonctionnait pas comme ça avant était une hérésie. La volonté de l'émir d'imposer ses choix pour essayer de vendre des maillots, c'était bien, ça faisait vendre des maillots, mais ça faisait pas gagner des matchs, ou en tout cas pas les gagner les matchs qu'il fallait. Et encore heureux si on fonctionne enfin comme ça.
Ok, monsieur Kevzorn a l'air de pas être revenu à temps pour son intervention, donc il va devoir.
Rapidement, j'ai oublié un truc.
Vas-y.
Nick, tu disais, moi j'ai pas du tout dit que ça se limitait à l'offensif hein, pour la question de tout à l'heure, mais tu réécouteras.
Ok. Il est de retour. Kevzorn, tu nous entends?
Ouais, je le bug un peu là, vite fait. Attends deux secondes, Nick, passe à quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de faire de la merde.
Bah, le sujet il est terminé, donc tu parleras au prochain sujet, mon ami, à tout de suite. ok, on va parler un petit peu de tactique, c'est la minute tactique comme chaque samedi 12h30, c'est parti. La minute tactique, alors on a vu deux Vitinha face à Milan, il y a eu le Vitinha qui était un peu excentré en première période, et il y a eu le Vitinha en deuxième période qui était un peu plus dans l'axe, on avait un peu plus de maîtrise. Mais on sait aussi que Luis Enrique aime le mettre sur le côté parce que ça permet à Kylian Mbappé d'avoir plus de 1 contre 1 parce que Vitinha il va aspirer un peu l'arrière droit. Donc, est-ce qu'on le garde dans l'axe et Mbappé va souvent avoir à jouer des 2 contre 1, voire plus? Ou est-ce qu'on continue à laisser Vitinha un peu en hybride pour essayer de l'aider sur ce côté-là? Parce que déjà, il n'y a pas Nuno Mendes et Lucas Hernandez ne monte pas. Donc, vas-y, Adrias.
La question se pose même pas. C'est un joueur qui est clairement axial. Il a été formé axial, il a toujours joué axial, et à chaque fois qu'il est sur l'aile, Et par rapport à l'argument Mbappé, je suis même pas sûr que ce soit vrai parce que une passe de Vitinha peut déséquilibrer la défense et offrir à Mbappé un contre un. Plutôt que qu'il se retrouve à 2 contre 3, mais le fait d'être à 2 contre 3, est-ce que tu as plus de succès que quand Mbappé est en 1 contre 1? Je suis même pas sûr. Et sa qualité de passe. Après, une fois qu'il est milieu, rien n'empêche de temps en temps aller apporter le surnombre sur l'aile, comme il l'a fait aussi en deuxième mi-temps contre Milan. Mais son impact est beaucoup, beaucoup plus important à mes yeux quand il est au milieu et il permet d'avoir des attaquants qui sont mieux servis. Tu parlais tout à l'heure de transition. C'est un acteur qui est très très important pour la transition. Tu as un Warren qui va remonter balle au pied et faire ce qu'il fait si bien. Mais tu as Viti qui par une position un peu intermédiaire peut être un relais très intéressant en étant au milieu, soit pour décaler sur les ailiers qui sont relativement hauts, soit pour essayer de trouver une passe. Et il est beaucoup plus intéressant dans ce registre-là. Après, il y a pas mal de questions. Je sais pas si tu les as notées, mais il y a pas mal de questions qui passent dans le chat.
Ouais, je vais noter pour tout à l'heure. On va essayer de rester sur le sujet. Lolo, vas-y, je t'écoute.
Moi, je suis déjà détenteur et grand défenseur de mon tonton Vitinha, parce que c'est mon gars, c'est mon petit, c'est lui. Moi, je trouve des qualités chez lui. Il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais qu'est-ce que tu trouves chez lui ?» Bref, tonton Vitinha, moi, personnellement, j'aime bien sa position en fait hybride, mais tout dépend qu'est-ce que toi, tu veux faire avec le ballon, dans quel système et face à quel adversaire. Si c'est pour voir un Vitinha qu'on a vu comme contre... je crois que c'était contre... Non, c'était pas contre l'OM, mais c'était contre Dortmund, qui aspire sur le côté gauche, etc., et qui va proposer un petit peu ce surnombre en attendant d'avoir un Nuno Mendes. Ça reste intéressant, puisque Luis Enrique, j'ai l'impression, il veut essayer parfois de le faire passer pour le Bernardo Silva du pauvre, un peu, sur le côté. Mais moi, je trouve que, comme dit Zed, en fait, il faut que... Il faut qu'il reste dans l'axe pour pouvoir tout simplement. C'est un mec d'axe, il a la possibilité de combiner, il peut frapper de loin. On l'a vu sur le peu de fois où il a pu prendre ses aises et commencer à le faire. Ça a été but ou en tout cas occasion très 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 forte. Donc je serais plus partisan pour le laisser dans l'axe pour surtout avoir la qualité au milieu de terrain et avoir la supériorité au milieu de terrain et au moins jouer facilement un pour un. Plutôt que de le mettre sur un côté, demander à ce que voilà, il puisse faire des débordements ou attirer un petit peu plus, parce que pour moi, je pense que s'il fait ça, c'est parce qu'on n'a pas Nuno Mendes, parce que lui peut le faire, à la fois défensivement et à la fois offensivement, et que je pense que si Nuno Mendes revient dans l'effectif, en étant titulaire, il n'y aura pas de problème pour que Vitinha puisse rester dans son rôle dans l'axe, et à ce moment-là, on aura vraiment notre milieu à trois. Et après, quid de la qualité, qui tu mets, qui tu rajoutes, qui tu vas chercher, ça c'est un autre sujet. Mais au moins, je resterai un peu plus dans l'axe, en tout cas pour Vitinha.
La grande flip, c'est que Nuno, tu vas l'avoir, et putain, c'est mon joueur préféré hein, de l'effectif, mais tu vas le garder combien de temps sur le terrain ?
Oui, c'est aussi un peu le risque. Après, faut espérer que bon, cette blessure-là elle soit bien traitée, qu'il n'y ait pas de rechute derrière, qu'il soit bien géré aussi. Moi, je pense que l'année dernière, il y a des moments où il fallait pas le faire jouer et tu le fais jouer. Le match où il sort de blessure et tu vas le faire jouer directement à la Juventus, là-bas, tu t'en sors sans lui et tu peux continuer à t'en sortir un peu sans lui ou en le laissant un peu sur le banc ou quoi que ce soit. Il y a des manières de gérer un joueur, et pour moi, il n'a pas été très bien géré de la façon où il revenait de blessure, etc. Après, est-ce que lui aussi a une part de responsabilité dans je sais pas, dans peut-être son l'après-foot, dans ce qu'il fait? Et je parle pas de peut-être de sortie ou quoi que ce soit, c'est peut-être sur le niveau peut-être alimentation, je sais rien. Donc il y a aussi un suivi. Donc il est jeune,
il est super jeune. Donc si tu veux, tu vois, les problématiques alimentaires, quand à cet âge-là, elles posent pas question. C'est à 27-28, c'est plus une faiblesse inhérente au corps, malheureusement, je crois.
C'est ça. Est-ce qu'il est peut-être renforcé un peu plus d'un côté que de l'autre? Enfin voilà. Après, c'est un poste qui est tellement compliqué. Moi, je personnellement joue à ce poste-là et c'est dur et il faut être vraiment très très fort sur tous les points. Parce que physiquement, c'est beaucoup de courses, c'est beaucoup de récupération, c'est beaucoup d'échanges, etc. Enfin bref, c'est voilà.
Kevzor, mon ami, si tu t'es enfin arrêté et que tu n'es plus en train de conduire, je te repose la question. Est-ce que tu préfères Vitinha dans l'axe ou en hybride sur le côté pour pouvoir épauler Kylian Mbappé qui est bien seul sur son côté?
Non, mais en fait, je pense qu'il faut trouver le juste milieu parce que contre Dortmund, il n'était pas dans l'axe ni à gauche, il était vraiment dans cet entre-deux. Et ça permet en fait d'avoir une espèce d'équilibre et défensif et offensif, je trouve. Tandis que c'est vrai que contre le Milan, l'entame de match fait que concrètement, comment dire, il est un poil trop excentré. Et il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Mais je pense que, on va dire, dans un milieu à trois, je pense que ça reste quand même léger de mettre Vitinha titulaire. Donc je pense que Luis Enrique est en train vraiment d'essayer de trouver la solution miracle. C'est vrai que Nuno Mendes devrait revenir d'ici, on va dire, peu de temps, mais dans quelques semaines. Quelques mois, ouais, ça va être quoi, janvier?
Non, mars.
C'est plus mars. Février-mars. Hein.
Ah ouais, ok. Ouais, donc de toute façon, il est en train d'essayer de trouver le juste milieu pour pouvoir équilibrer cette équipe. Je pense qu'il veut absolument réaxer Mbappé plutôt que de le laisser à gauche aussi, parce qu'on voit quand même qu'il est têtu par rapport à ça, même si ça ne me plaît pas du tout. Et voilà, après, quid de quand on aura Nuno, quid de quand on aura Hakimi, les deux sur le terrain, comment va-t-il vouloir évoluer? Ça, il n'y a que lui qui le sait, parce qu'on a beau faire beaucoup de spéculation, ça reste de la spéculation. Moi-même, par rapport à comment il positionne Hernandez, je ne vois pas comment il va faire pour mettre cette défense à 3 et deux autres pistons. Mais à voir, honnêtement, à voir. Moi, je laisse, comme tu disais tout à l'heure, je laisse carte blanche à Luis Enrique. Il doit avoir quand même bien travaillé en amont avec son staff technique pour pouvoir analyser tout ça. Mais voilà.
Ok, je te laisse conclure, Rico.
Bah, c'est une question compliquée parce que oui, c'est forcément lié aussi à l'absence de Nuno Mendes. C'est aussi lié au fait qu'ils veulent faire jouer Mbappé plus haut, que Mbappé ne défend pas, contrairement au côté droit où on peut avoir Dembélé et Barcola qui défendent un peu plus. On a Hakimi aussi qui joue plus haut, donc ça permet d'avoir quand même un côté droit, même Marquinhos hein, qui joue assez haut aussi, donc tu as quand même un côté droit qui permet de bien défendre. Lucas avec Mbappé à gauche, c'est différent, donc tu as besoin d'avoir un Vitinha qui, parce que tu as Lucas quand même qui couvre beaucoup à côté de Skriniar, qui monte pas beaucoup, donc tu as besoin d'avoir un Vitinha comme ça qui aide Mbappé forcément. Après, moi j'ai plus l'impression aussi que ça vient peut-être d'un problème de confiance de Luis Enrique. On a vu qu'il l'avait benché très souvent quand même cette saison. C'est, si on regarde, le seul qui joue finalement avec des consignes un peu spéciales, un peu, on va dire, contre nature, contre son jeu. Parce que oui, Vitinha, c'est un joueur d'axe. Et au final, il se retrouve à jouer un peu côté gauche. Et quand on regarde tous les autres joueurs, ils jouent tous à leur poste avec des consignes. Bon, sauf Lucas Hernandez qui dépanne, mais c'est quand même un latéral gauche de formation. Donc, c'est finalement le seul qui se retrouve à devoir jouer un peu contre nature, on va dire. Et je pense que c'est peut-être pas un hasard. Je pense que Luis Enrique n'a peut-être pas forcément confiance en lui. Moi, j'ai hâte de voir aussi Kanginli à sa place pour voir ce que ça peut donner sur ce côté. Mais c'est vrai que pour Vitinha, évidemment, je le préfère dans l'axe. Mais c'est peut-être aussi un aveu d'impuissance. Peut-être qu'il se dit que si on impose ce milieu-là à trois avec un Vitinha dans l'axe, ça nous permet de... on serait peut-être trop fragilisé par rapport à nos adversaires. Donc, c'est peut-être un aveu d'impuissance aussi. Peut-être qu'il préférait avoir un autre milieu à sa place, qu'on n'a pas d'ailleurs. Un profil, par exemple, comme Zaïre Emery, un peu plus athlétique, capable de faire peut-être plus de courses à haute intensité, mettre plus de pression. Vitinha, c'est un joueur complètement différent. C'est un petit gabarit qui gagne très peu de duels défensifs. Donc, c'est une question compliquée, mais je pense que pour l'instant, c'est du bricolage en attendant d'avoir l'effectif au complet et d'avoir peut-être aussi d'autres mercato qui vont arriver. Et aussi, comme j'ai dit, peut-être un problème de confiance envers lui, tout simplement.
Adrien, si tu voulais réagir.
C'est une théorie, le problème de confiance envers Vitinha. Tu as une autre théorie qui est la tétuterie. Je ne sais pas comment on dit. L'entêtement. Merci. C'est un mot compliqué. Tout à coup, je pars tétutu. Il faut arriver à entêtement. Je suis un peu du père. Donc, l'entêtement de Lucho Enrique. C'est assez frappant hein, quand tu vois, par exemple, contre le match contre Milan. Où tu vois cette tentative de 4-2-4 qui est hybride, où tu reviens clairement en deuxième mi-temps dans un 4-3-3, et où en fait, tout à coup, tu peux exploser en transition et t'as Milan qui commence à vraiment voir flou. Et c'est comme si Enrique n'était pas si fan en fait, de ces séquences de transition et qu'il l'aimait par défaut parce qu'il n'a plus vraiment d'autre choix. Et à ce moment-là, parce que tu vois, si on rentre vraiment dans la théorie de la confiance, si on regarde les entrées de Vitinha récemment et qu'on prend la deuxième mi-temps contre Milan, c'est juste du tout bon. Et il n'y a rien à rejeter, que ce soit à la fois dans le pressing, à la fois dans la participation offensive, à la fois dans la facilité. La circulation de la balle, c'est juste du tout bon. Mais j'ai l'impression qu'il tient à son truc et qu'effectivement, dans un 4-2-4, bah, si tu mets Vitinha, bah, tu le mets dans ce rôle-là. Et voilà. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est un problème de confiance envers Vitinha, mais c'est juste qu'on est face à un coach qui a plein de qualités, mais qui est putain de têtu.
Mais est-ce que justement ce 4-2-4, c'est vraiment sa volonté aussi ou c'est du bricolage justement?
C'est du bricolage, mais je pense que c'est le bricolage qu'il a imaginé par rapport à l'effectif et il n'arrive pas à le mettre en place et il continue d'essayer de le mettre en place.
Non, vous êtes trop large. Le 4-2-4 est du bricolage, mais pas par rapport à l'effectif, c'est spécifique à Kylian Mbappé. C'est pour Kylian Mbappé que le 4-2-4 il est là. Parce qu'on est face à un joueur qui ne veut pas jouer neuf, il ne veut pas jouer ailier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de le mettre dans une position où il est entre les deux, où il y a un ailier et il y a un numéro 9. Il est entre les deux parce que monsieur veut être entre les deux.
Joue à deux devant.
Et puis tu fais une supposition, c'est-à-dire que tu pars du principe que Mbappé aurait dit ça. Rien ne te dit que tu n'as pas assisté à la conversation. Mbappé a dit non.
Pas Pivot Gang, il n'a pas envie de jouer neuf. Et monsieur Ailier ne veut pas défendre. Donc il ne peut pas jouer Ailier dans un 4-3-3.
Comment tu sais qu'il a fait pas mal de matchs en Ailier? Comment tu sais qu'il ne veut pas les faire?
Mais parce qu'il ne défend pas. Tu ne peux pas jouer Ailier dans un 4-3-3 et pas défendre.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Mais il ne peut pas. On sait très bien, on sait tous qu'il ne peut pas.
Ça dépend, c'est ce qu'on pense.
Vas-y, Kevin.
Voilà, Nix, parce que en fait, si tu mets un latéral gauche hybride qui devient défenseur central sur une phase offensive, ça te permet de couvrir ton couloir gauche qui, tu sais, à la perte du ballon, est un peu moins efficient défensivement. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Pardon. En sachant que je trouve que, comment dire, par rapport à ce que je suis entre deux, entre ce que Drias et Erico disaient, parce que je ne pense pas que ce soit du bricolage, mais je ne pense pas qu'il soit aussi satisfait. Donc, parce que depuis le début de saison, on voyait quand même qu'il voulait vraiment imposer Vitinha dans cet effectif, parce qu'il l'a quand même mis, il faisait partie des joueurs qui avaient quand même le temps de jeu le plus intéressant avec Skriniar et Warren. C'est pour ça que je vais te dire, il avait aussi pas le choix, mais c'est pour ça que concrètement, je pense qu'il est entre deux. Je pense qu'il aime le profil de Vitinha, qui est quand même un joueur assez polyvalent, qui peut, entre guillemets, toucher toutes les zones intérieures du jeu, un petit peu extérieures, parce qu'il est quand même techniquement à l'aise, etc. Mais maintenant, Vitinha a beaucoup de défauts qui ne permettent pas, en fait, au profil du projet que veut mettre en place Luis Enrique. Par exemple, contre le Milan, Vitinha m'a beaucoup énervé. Alors que c'est un joueur que j'ai quand même défendu, même si il touche trop le ballon. Il y a des fois, on est en phase de transition ou en phase de possession, il va fixer la défense adverse, mais il doit donner le ballon deux secondes plus tôt ou quand on est en phase de possession. Tu vois, pour essayer d'avoir une certaine fluidité dans notre jeu, tu dois vite fixer à gauche, renverser à droite. Il touche 3, 4, 5 fois le ballon. L'année dernière aussi, j'avais fait ce constat. Je pense que c'est un joueur qui n'est pas forcément en totale confiance, qui a ce besoin aussi de toucher le ballon pour, voilà, quand tu joues milieu de terrain, ou même il y a des joueurs qui aiment ça, toucher le ballon pour se sentir important dans cet effectif. Et là, en fait, Vitinha, le problème, c'est que des fois, le jeu demande à ce que ce soit deux touches de balle, il en fait quatre. Des fois, le jeu demande que ce soit cinq touches de balle en ayant fixé la défense adverse, et il en fait sept ou huit. Il y a plusieurs fois où il donne le ballon à Mbappé quand il fixe la défense, mais il doit la donner plus tôt, ou derrière, en fait, l'espace pour la passe est fermé, donc du coup, il va jouer ailleurs. Et ça, je pense que ça fait partie de l'entre-deux, entre Luis Enrique, qui aime bien le profil Vitinha, parce que quand Vitinha est sur le terrain, il le fait rarement sortir, et ce côté où il a des défauts, qu'il doit être en train d'essayer de corriger aussi avec le joueur.
Je voulais rapidement réagir. Déjà, si tu as Mbappé sur le côté, effectivement, il ne défend pas, mais déjà, tu as des neufs qui défendent. Alors, je suis désolé, hein, Grégory, je réessaye de rebrancher mon cerveau, mais voilà, tu as des solutions. Ce n'est pas parce que tu vas avoir ton ailier qui défend peu que tu n'as aucune solution pour compenser. Tu peux aussi compenser par le milieu, tu peux aussi compenser par les latéraux. Il n'y a pas qu'une seule manière de penser, même si Grégory, tu as sans doute raison et je suis très con. Passe une bonne journée.
Ok les gars, après ce tir fait dans les règles, je tenais à vous remercier de nous avoir aidés pour tous les dons que vous avez faits pour nous aider à avoir le studio. Donc déjà ça avance, regardez, on a des nouveaux micros, donc merci à tous. Si vous voulez continuer à faire des dons pour continuer à prendre des caméras, etc. pour faire le studio, n'hésitez pas, c'est en commentaire. On va enchaîner avec un petit monsieur avec des boucles d'or, on arrive dessus. Un but, une passe D, trophée homme du match lors du dernier match de phase de poule pour Xavi Simons. Transfer Market qui a augmenté sa valeur de 30 millions d'euros. Il est maintenant estimé à 70 millions d'euros. Il est dit que Xavi Simons ne voudra revenir au PSG logiquement que si on compte vraiment sur lui et qu'on lui donne une place de titulaire. Enfin, même si personne n'a vraiment une place de titulaire à part Kylian Mbappé, mais que dans son l'esprit du coach, il soit considéré comme un titulaire de base. Est-ce que vous êtes prêt à donner cette place à Xavi Simons pour qu'il revienne? Ou si vous n'êtes pas prêt, est-ce que vous êtes plutôt du coup à le vendre à 70 millions? Ce joueur-là ne va clairement pas accepter d'être remplaçant au Paris Saint-Germain. Je t'écoute, Rico.
On lance une autre personne avec des boucles d'or. moi je lui donne la place pour moi il aura une place en tout cas après déjà le début de saison qu'il fait à Leipzig. C'est vrai que moi je l'avais déjà dit ici même, je sais pas si je peux voir Xavi Simons vraiment devenir un top joueur de classe mondiale. Au final, pour l'instant, il est en train de me faire mentir, et comme j'ai dit, tant mieux pour lui et tant mieux pour le PSG. Pour l'instant, le début de saison qu'il fait avec Leipzig, il est monstrueux. Le dernier match en Ligue des Champions en est la preuve. Le but qu'il met, il est stratosphérique. Homme du match en plus de ça. Donc non, c'est une saison pour l'instant parfaite pour lui, parce que dans son développement, et surtout à Leipzig, un club qui fait confiance aux jeunes, etc., c'est l'environnement parfait. Pour moi, il a fait le meilleur choix. En plus de ça, il re-signe chez nous, donc tant mieux. Il aurait très bien pu partir à Leipzig sans ça ou signer autre part, peu importe. Il a décidé de refaire confiance au PSG, mine de rien. Ça montre quand même son attachement au club. Mais en tout cas, sur le développement pour l'instant à Leipzig, c'est très bien. Et puis surtout, il a les qualités de pouvoir jouer partout. Il peut jouer à gauche, à droite, au milieu, même en faux neuf. Donc, il a une palette très large qui lui permet de pouvoir postuler l'année prochaine à plusieurs places dans l'équipe. Tu peux imaginer qu'un Mbappé aussi pourrait partir. Donc, ça libère de la place également. Donc forcément on voit même au milieu de terrain parce qu'il peut jouer 8-10, tu vois que personne ne s'impose réellement, notamment Vitinha. Donc même si on l'a déjà dit quand même, c'est un joueur hyper important dans le système pour l'instant, Vitinha. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai dit, il a la particularité de pouvoir jouer à plusieurs postes et pour l'instant il est en train de grandir, il est en train d'exploser avec Leipzig et l'année prochaine bien sûr qu'il pourra postuler, je pense, à une place de titulaire dans cette équipe ou même dans la rotation, puisqu'on voit qu'il y a une réelle rotation, les joueurs jouent pas mal. Donc non, c'est bien, il faut qu'il continue comme ça, et il reviendra au PSG, j'espère, l'année prochaine, avec une super saison dans les jambes.
Kevzor, je te repose la question, est-ce que le joueur te demande d'être titulaire la saison prochaine? Est-ce que tu lui fais cette promesse, entre guillemets, ou est-ce que tu lui dis « je peux pas » et du coup tu le vends dans les 70-80 millions d'euros?
En fait, il faut déjà prendre tout le contexte. C'est-à-dire qu'un joueur ne demande jamais d'être titulaire, mais demande d'avoir un rôle important dans l'effectif.
Oui.
Et je pense que ce rôle important dans l'effectif, il va l'avoir. Je pense que c'est vraiment clairement le profil idoine de Luis Enrique, en sachant que concrètement, pour faire plus simple, il a toutes les caractéristiques et toutes les qualités en plus abouti que Vitinha. Donc là-dessus, en fait, moi je le mets sans problème dans le 11, avec un joueur important, pardon. Et voilà, en plus, il confirme en fait son début de saison qui est excellent. Sa saison passée à Eindhoven qui est excellente, dans un club qui permet de peaufiner un joyau. Et je suis de l'avis de Réco, parce que de base, moi, Xavi Simons, je voyais en lui un bon joueur, mais je ne voyais jamais en lui un joueur capable de passer ce palier, ce cap, de devenir un top joueur. Là, pour le moment, en termes de stats, il est quand même très, très important dans le club de Leipzig. En plus, ses prestations sont quand même relativement abouties. C'est un joueur qui commence à avoir un coffre et un volume de jeu qui est quand même de plus en plus impressionnant. Et il est toujours décisif. Il n'y a quasi pas un match de Leipzig où il ne finit pas avec une passe D, un but, voire même en dehors de ça, une passe clé qui amène à des occasions ou à des buts de son équipe. Donc voilà, il est capable de jouer et de combler plusieurs postes. C'est un joueur qui techniquement est très très à l'aise, qui en plus a pris une dimension physique qui est impressionnante, parce que regardez bien le Xavi Simons qu'on récupère au PSG, tout frêle, tout petit, j'exagère, mais tout frêle, etc. Et le joueur qu'il est devenu athlétiquement, c'est quand même incroyable. Et on sait très bien que sur ce point-là, c'est hyper, hyper important sur un point football dans le monde professionnel. Donc, non, moi, je pense qu'il faut le garder. Maintenant, quand un joueur, je fais une petite parenthèse, quand un joueur est évalué à 70 millions sur Transfermarkt, je vous garantis qu'il partit, si on doit le vendre, il ne partira pas à moins de 100 millions. Hein.
Marias, t'en penses quoi, toi ?
J'ai envie de vous poser une question. Vous pouvez avoir Xabi Simons pour 70, ou vous pouvez avoir Bernardo Silva pour 90, vous prenez qui ? Parce que la question, c'est aussi à prendre dans ce sens-là, en fait. Et puis, sur le côté staté, c'est bien, mais c'est Moïskine aussi, il a staté pendant 6 mois. Là, il y a Kev qui nous dit qu'il a pris du volume, que dans le jeu, c'est excellent. Il y a notamment dans le chat, il y a Amitouche qui nous dit que dans le jeu, c'est pas ouf. Et moi, c'est un joueur. Moi, j'ai pas regardé Leipzig. Hein, j'ai pas raconté Krag, raconté que j'ai vu Leipzig, et je peux vraiment parler de son évolution. Mais c'est un joueur. Moi, je trouvais qu'il avait un défaut. C'est qu'il avait, enfin, une très grande qualité, c'est qu'il jouait toujours vers l'avant. Mais il jouait toujours vers l'avant, même quand il devait pas jouer vers l'avant. C'est-à-dire même quand il y avait personne qui était devant, etc. Ou même quand il y avait personne qui faisait un appel. Et c'était son problème à ce joueur. Il était très intéressant pour tout le reste, mais pour moi, il avait ce problème-là. Il avait un problème de QI foot. Mais il peut grandir, et je ne suis pas du tout en train de l'enfermer. Et peut-être qu'à Leipzig, il va confirmer tous les espoirs qui sont passés en lui. Et peut-être qu'effectivement, en fin d'année, tu te retrouves avec un joueur qui concrètement en vaut 70, qui a fait les progrès, et qui en plus de ça est jeune. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Est-ce qu'on a suffisamment vu Leipzig pour voir qu'il a vraiment progressé là-dessus? Moi, j'en suis pas sûr. J'ai pas vu les matchs, mais j'entends des sons de cloche qui vont dans un sens et des sons de cloche qui vont dans l'autre. Je me méfie des joueurs qui statent parce que je me souviens tout à fait de ce qu'on disait de Moïse Kean. Et j'aimerais rappeler que quand on parlait de Bernardo Silva, bah, c'était 90. Et même un Xabi Simons, alors peut-être qu'il est exceptionnel, encore une fois, peut-être je ne l'ai pas vu, mais un Xabi Simons, que j'imagine, ils ont progressé un petit peu à 70 et un Bernardo Silva à 90. Moi, je vends tous les jours Xabi Simons à 70, je mets 20 millions et je récupère Bernardo Silva. Maintenant, il a l'argument pour lui de la jeunesse. S'il confirme au plus haut niveau, pourquoi pas, mais il y a cette espèce de truc où ah ben, ce joueur, c'est comme s'il avait grandi au PSG, donc il faut absolument donner une chance. Et avec ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il a une valeur marchande qui est X. Si tu peux avoir beaucoup mieux pour un tout petit peu plus, eh ben, c'est un no-brainer. Maintenant, s'il remplit toutes les conditions, qu'il efface tous les doutes que je suis en train d'exprimer et qu'il nous montre sur la saison qu'il n'est pas juste dans une période de surchauffe et que dans le jeu, il y a vraiment cet apport, cette variation tactique qui, à mes yeux, lui faisait défaut quand il était chez nous, bah pourquoi pas, mais c'est bien trop tôt pour le dire.
Je suis en train de regarder l'âge de Bernardo Silva, il va avoir 30 ans cet été.
Oui, mais bien sûr, mais tu peux trouver, t'as d'autres profils, après moi les noms je ne suis pas au jus, mais j'ai des problèmes avec les noms, avec mes mémoires, mais on parlait de nombreux joueurs de 8, t'avais Vega, t'avais machin, t'en as un autre qui est, je ne sais plus, Zubi, je ne sais pas quoi,
Zubi Mendy.
Ouais, voilà, moi ce genre de truc, je ne suis pas au jus, mais je veux dire, t'as d'autres profils, ce que je veux dire par là, c'est que s'il vaut 70 millions, ok, mais qu'il nous montre qu'il évaille, parce qu'il ne l'a pas encore montré pour moi.
Bah de toute façon, sa saison, là, ça va être le facteur. C'est là qu'on va pouvoir voir ce qu'il continue à progresser. Il va avoir des grands rendez-vous en Bundesliga parce qu'on sait que c'est quand même facile, entre guillemets, hein, de stats en Bundesliga. On peut voir Guirassy, d'ailleurs, qui est en train d'exploser les statistiques. Mais il y aura des gros matchs à jouer avec Dortmund, avec le Bayern, etc. Donc, on va pouvoir voir ce que ça donne aussi. Mais surtout, comme moi, j'avais dit, c'est plus en Ligue des Champions où j'ai envie de le voir. Pour l'instant, ça se passe très bien. À voir les prochains matchs que ça donne en Ligue des Champions. Mais cette saison, c'est quand même... on va pouvoir voir son évolution et puis on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Dans tous les cas, il aura une grosse valeur marchande. Il sera très demandé, très sûrement. Donc, on aura le choix et un choix de luxe. Donc, ça, c'est très bien. Tant mieux.
Tout à fait. Lauriane, on te laisse conclure là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que pour 70 millions, voire plus, comme il a dit Kev, parce que souvent, les joueurs, ils sont sous-estimés sur Transfermarkt. Il y a quelqu'un qui te propose 100 millions pour Xabi Simons cet été. Est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le laisses partir? Si le joueur il te demande à être important, est-ce que tu lui donnes ce rôle?
En fait, rien ne... Vous avez tous dit des choses qui sont hyper pertinentes et moi, personnellement, j'irais plus dans le sens où ça ne te coûte rien en fait, de le récupérer puisque le joueur t'appartient, de l'essayer et de voir s'il marche dans ton effectif parce que tu vas lui donner un rôle important pour qu'il puisse jouer. Et de toute façon, il est jeune, il a une forte progression, il a de quoi devenir un bon joueur, si ce n'est un très bon joueur à confirmer. Donc en soi, pour moi, si ça ne marchera pas, tu auras de quoi te retourner pour pouvoir récupérer ton billet et à ce moment-là, avoir d'autres solutions pour pouvoir te retourner. Dans le début de saison que fait Xabi Simons, moi j'ai regardé quelques matchs, j'en ai regardé 2-3 de Leipzig, il fait un bon début de saison, il y a des choses qui sont encore à progresser, que ce soit techniquement, techniquement, où voilà, c'est parfois un petit peu brouillon ou un petit peu, comme tu disais, Draya, je veux trop jouer vers l'avant et limite, en fait, tellement que j'oublie parfois de calmer, de faire ce petit tempo-là. Mais lui, en fait, il a une capacité tellement d'adaptation aussi facile parce que tu peux le faire jouer sur un milieu excentré, ce qu'il est en train de faire avec Leipzig. Comme tu es capable de le faire jouer un peu plus dans l'axe, après, je voyais beaucoup, est-ce que ça pouvait être lui, notre milieu créateur, etc. Pour moi, je trouve qu'il n'a pas la qualité de passe et la qualité de vista pour pouvoir être cette dernière passe ou cette avant-dernière passe. Donc je le verrais plus dans un milieu un petit peu plus dans la percussion ou peut-être sur un côté en concurrence je sais pas, peut-être avec un Dembélé, avec un Barcola, j'en sais rien, mais moi je serais plus amené déjà quoi qu'il arrive à le récupérer, ça c'est sûr et certain, de lui donner un rôle puisque avec ce qu'il est en train d'affirmer à Leipzig, il est en train de stater malgré tout, même si on peut dire que la Bundesliga c'est peut-être un des championnats où c'est le plus facile pour pouvoir stater à l'instant T. C'est un mec qu'on a récupéré très très jeune, il était très très frêle, oui, mais il avait peut-être 16 ans ou 17 ans à l'époque, donc c'est aussi très très jeune pour un jeune joueur, là où tu commences à te former, et t'es dans ta fin d'adolescence et dans ton début de ta vie d'adulte. Donc là, on voit qu'il est en train de s'étoffer, il enchaîne les titularisations, on voit qu'il est aussi en train de trouver une place au sein de la sélection nationale. Donc pour moi, il y a tout aussi qui est en train de marcher pour qu'il puisse avoir une place au Paris Saint-Germain, avoir l'impact au Paris Saint-Germain aussi, et rien ne vaut d'essayer. Je pense que si Vitinha aujourd'hui, il est titulaire au Paris Saint-Germain, je ne vois pas pourquoi un Simons n'aurait pas les qualités pour pouvoir le sauter, ou au moins jouer à sa place et apporter peut-être un petit plus qu'un Vitinha n'a pas, puisque Vitinha a des qualités que Simons a, et inversement. Donc je pense que moi, je partirais du principe, on le récupère, on l'essaye. Si ça ne marche pas, tu le vends, il aura une valeur marchande, et quoi qu'il arrive, tu pourras récupérer un billet. Et après, quid de Bernardo Silva? Moi, je ne suis plus forcément partant. Il se rapproche plus de la fin que du début. Est-ce que nouveau challenge? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que revenir en Ligue 1, pour lui, ce serait intéressant? Je ne sais pas. Je préfère aller prendre un autre joueur qui est en devenir, un Wirtz, un Olmo, ce genre de joueur où tu vas vraiment, t'es sûr que, voilà, t'as l'assurance que, avec la performance, plutôt qu'aller chercher encore peut-être un joueur qui a déjà fait sa carrière ailleurs, qui a déjà construit sa peut-être legacy ailleurs, pour devenir celle de chez toi. Donc voilà.
Juste Darius, petit coucou aux Marseillais qui sont dans le chat. Je ne sais pas si vous vous êtes perdu. Votre équipe est tellement inintéressante que vous êtes là dans les chats parisiens. Bah, c'est très très bien. Vas-y Darius.
Très rapidement, c'est déjà le fait que tu récupères gratuitement. S'il a une valeur de marchande de 100 millions et que tu rachètes un joueur de 100 millions, tu récupères cet autre joueur gratuitement aussi. En fait, c'est Visu Brand faisait la même réflexion, mais ça a pas de sens cet argument. C'est il a une valeur marchande, donc si tu le vends pour racheter un joueur au même prix, ça t'a rien coûté aussi. Tu peux l'appliquer dans les deux sens en fait ce truc là. Et du coup, je suis pas du tout d'accord avec cette logique là. Maintenant, quand je parlais de Bernardo Silva, je parle d'un principe de joueur. Je parlais pas forcément de Bernardo Silva parce que je suis bien conscient de l'âge de Bernardo Silva. Mais au poste auquel joue Xabi Simons, on a une flopée de talents qui ont entre 22 et 27 ans un peu partout en Europe. Moi, je suis pas la personne idoine pour être capable de les citer, même si je les connais parce que j'oublie les noms avec ma mémoire. Mais en soi, la question, elle est là. C'est pas construire une opposition entre Bernardo Silva et Xabi Simons. C'est juste, est-ce que Xabi Simons est vraiment, par rapport à la valeur qu'il a, le joueur le plus idoine pour le Paris Saint-Germain? Et dire que le fait qu'on l'a déjà, ça ne nous coûtera rien, c'est un argument qui, pour le coup, pardon, hein, je vais utiliser un mot un peu, c'est un argument qui est un petit peu fallacieux, dans le sens où si tu le vends et tu rachètes un joueur au même prix, de la même manière, ça ne te coûtera rien aussi.
Et c'est un argument aussi qui peut nous coûter, parce qu'il faut voir ce que tu veux faire vraiment de lui l'année prochaine, parce que si tu le gardes et que tu ne le fais pas forcément jouer et qu'il vaut 70 millions, si derrière tu ne le fais pas jouer, etc., sa valeur peut baisser à 20, 30, 40 suivant la saison qu'il fait. Donc voilà, on sait qu'au PSG, en général, la valeur marchande du joueur, elle baisse toujours vu ses perfs, etc., et ce qui se passe chez nous. On a pu le voir notamment avec Icardi, si on peut prendre un exemple comme ça, et la valeur a bien baissé. Donc il faut vraiment voir, même s'il aura quand même de la valeur parce qu'il restera jeune. Mais ça va être un dossier important et il faut bien réfléchir à ce que tu veux faire, à comment tu veux l'utiliser. Sinon, autant le vendre.
Ok, messieurs. Terminer ce live sur l'avant-match Brest-Paris Saint-Germain qui a lieu demain à 13h. Donc la question va déjà être sur ce match. Après, juste avant de partir là-dessus, Kev et moi, on voulait faire un live match demain de Brest en live sur la chaîne. Si ça vous intéresse, dites-nous en commentaire. Comme ça, on voit si on le fait ou pas. Si vous préférez juste regarder le match tranquille et que vous ne voulez pas qu'on vous parasite en même temps, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Par rapport au match de demain, on est sur un match à 13h face à une équipe de Brest qui est très haut au classement. C'est une surprise pour l'instant. Ils sont 5e, ils sont à 2 points, 3 points du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce n'est pas typique le match piège? Souvent, le PSG, le dimanche à 13h, a du mal. Donc, vas-y Kev, est-ce que tu penses que ça peut être un match piège pour le Paris Saint-Germain?
Match le dimanche à 13h, de toute façon, c'est jamais facile. On ne va pas se mentir, les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer à ces horaires-là. C'est des matchs qui sont relativement compliqués face à un adversaire qui, en plus, va vouloir mettre beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact après qu'on ait joué en Ligue des Champions. Donc, on sait pertinemment que ce ne sera pas un match facile. Donc voilà. Mais ce qui est important demain, c'est les 3 points. C'est de continuer, en fait, la dynamique de victoire qu'on est en train de mettre. Et des fois, il faut savoir que il vaut mieux gagner un match en étant moyen que de perdre un match en étant bon. Donc moi, j'espère avant tout que nous prendrons 3 points demain. Je m'attends à un match difficile, à une équipe de Brest qui va nous poser des difficultés. Et j'espère que les joueurs répondront présents, parce qu'ensuite, on a une semaine aussi qui va nous permettre de travailler correctement. Une semaine avec, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de match en milieu de semaine la semaine prochaine. Donc,
non, voilà, c'est vendredi, on pourra,
exactement. Donc, on pourra bien travailler pour nos prochains matchs. Et j'espère que les joueurs seront capables de remettre le bleu de chauffe après la victoire au Milan. C'est important. C'est important de gagner demain. Point.
Pour l'instant, Kev, pour notre truc de live match, c'est un peu mal parti. Il y a Mitouche qui nous dit ça sert à rien de live match, les gars. On va être focus sur le match et pas sur vous. Vous méritez pas ça, Paris Central.
Je pense qu'il a raison, moi.
Qui veut enchaîner là-dessus avant le match? Vas-y.
Alors déjà, il y a un petit truc à dire. C'est Thiago, tu nous rappelles ce qu'ils ont fait Marseille? Attends. Thiago, tu nous rappelles ce qu'ils ont fait Marseille contre Brest cette saison? Parce que j'ai des problèmes de mémoire. Et je sais pas si tu veux parler des valises de billets, y a pas de souci, on peut ouvrir le dossier. Sinon pour le match de demain, bah ouais, les matchs à 13h, mais en même temps les matchs à 13h, je sais pas si vous remarquez, c'est souvent des beaux matchs, donc c'est des matchs qui sont sympas à voir et j'espère que ça va pas déroger à la règle. Après, la problématique, c'est le match après Ligue des Champions. On a gagné le match d'avant, ce qui est pas toujours le cas. On a gagné le match de Ligue des Champions. Est-ce que va y avoir une décompression? C'est pas impossible. Il y a le débat qu'on a ouvert en début de live qui pour moi m'incite à la confiance. C'est justement cette concurrence qui a réussi à installer Lucho Henrique devant, et elle est réelle. Donc je pense que pour ce genre de match, ça va être particulièrement important pour ne pas perdre justement cette envie de bien faire, de mettre des buts, etc., etc. Maintenant, faut se méfier de Brest. Brest, ils sont à la fois chiants. Et à la fois, ils ont une saison un peu en trompe-l'œil. Même si leur victoire à Thiago, désolé, contre Marseille, était amplement méritée. C'est peut-être la seule sur le début de la saison. Je troll un tout petit peu là. Non, c'est une histoire qui méritait ces matchs, qui a été vraiment compliqué à jouer. Mais ils ne marquent le pas depuis quelque temps. Ils ne marquent le pas depuis 2-3 journées. Ils enchaînent les défaites. Et ils caracolaient en tête il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont redescendus à la 5e place. Donc, ils sont dans une petite crise. On sait ce que c'est jouer le Paris Saint-Germain, c'est toujours un côté particulier, hein, parce que comme les Thiago marseillais, ils n'existent que pour le PSG. Ce serait bien qu'ils s'inventent une vie, mais ça c'est encore une fois pour le petit troll et je vais peut-être arrêter de les faire. Et du coup, c'est un match, si on le prend au sérieux, je pense qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas cet effet de décompression de Ligue des Champions, je pense qu'on va s'en sortir. Si maintenant ça existe, effectivement Brest pourra poser des problèmes.
Écoutez, on va terminer avec Lolo et Rico. Après, Lolo, il est encore là, vas-y. Et après, Rico, tu termines. Après, on enchaîne sur les pronos pour terminer ce live. Vas-y, Lolo, tu peux. T'as pas de micro. Vas-y, Rico, pendant qu'il règle son problème.
Ça a tout du match piège parce qu'on est après la Ligue des Champions. On est à 13h. On est à Francis Leblay. Donc forcément, on a pu voir à Clermont comment c'était compliqué. Donc oui, forcément. Après, c'est vrai que Brest a démarré pied au plancher. On ne s'attendait pas à les voir là. Moi, je les voyais descendre, par exemple. Donc, ils ont marqué pas mal de points. Maintenant, c'est vrai que depuis quelques matchs, ça ne marque le pas. Il n'y a que 2 victoires sur les 7 derniers matchs. Et c'est une équipe qui a du mal à marquer des buts, qui en prend très peu. Mais quand on connaît la force offensive du PSG, on n'a pas de quoi s'inquiéter et qui en marque très peu. Donc a priori... Bon, c'est quand même un adversaire qui est largement à notre portée. Maintenant, moi, je pense que ça ne sera pas un match piège parce que Nice a gagné, parce que Paris doit continuer de gagner. Et en plus de ça, on en a parlé longuement tout à l'heure, mais on a beaucoup de joueurs qui sont sur le banc, qui ont envie de jouer, qui ont envie d'être bons et qui sont bons quand ils rentrent. Donc ça va nous permettre de garder l'équipe concernée et d'avoir des joueurs qui seront à fond dimanche et qui vont pouvoir montrer de belles choses. Je pense à Kanguini, je pense à Barcola, même Mbappé qui a envie de continuer à stater, Ramos aussi. Et puis voilà, il y a des places à gagner en fait cette saison, donc on ne peut pas se retrouver avec une équipe qui dort. Ça aurait été l'année dernière avec Mbappé, Messi, Neymar par exemple. Mais avec une place acquise tout simplement, on aurait pu voir un match compliqué à Brest demain avec une équipe qui est 100% concernée et des joueurs qui ont envie de gagner leur place et de marquer les esprits. Je pense qu'on n'en fera qu'une bouchée. Après, évidemment, c'est à 13h, c'est à l'extérieur et c'est post-Ligue des Champions, donc ça peut toujours être un piège. Mais moi, je pense que ça va bien se passer. Et puis, j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire Skriniar-Danilo en défense centrale parce que Marquinhos est out. Alors, je n'ai pas encore vu l'info confirmée. Il faudra que j'aille voir tout à l'heure. Mais personnellement, j'aimerais voir Mukiele dans cette défense centrale qui rapporte quand même, qui gagne beaucoup de duels et qui a pas mal de vitesse, contrairement aux deux tracteurs. Donc, j'espère qu'on le verra dans la défense centrale.
Ou sinon, t'inverses Mukiele et Théo. Et tu ressens Théo et tu mets Mukiele sur le côté.
Il a le profil en fait du match piège, mais comme dit Rico, avec l'investissement des joueurs et des joueurs qui veulent avoir un rôle à jouer dans cet effectif-là, j'ai du mal en fait à avoir cette possibilité du match piège. Je pense que le Paris Saint-Germain va se rassurer. Il faut être dans une dynamique où quoi qu'il arrive, on est dans l'obligation d'aller chercher des points. On est quand même derrière Nice qui, malgré tout, même si on ne peut ne pas les aimer, bah, ça enchaîne même difficilement, même les matchs difficiles, ils arrivent à les gagner. Donc, on est à la recherche de points. Ce n'est pas le moment de lâcher. Là, tu es dans un enchaînement où tu vas aussi avoir donc, le prochain match après qui sera vendredi. Et après, tu vas enchaîner avec le déplacement à San Siro. Donc, tu seras dans un moment où il ne va pas falloir relâcher la pression. Et le meilleur moyen, c'est tout simplement d'affirmer son autorité en gagnant ce match-là à Brest, puisque le poste Ligue des Champions, avant là où on avait des maladies avec même le poste ou même l'avant match Ligue des Champions, ben là, il va falloir l'enlever mentalement. Et il faudra essayer, après tout va dépendre de Luis Enrique, l'effectif qu'il va pouvoir mettre à disposition, la compo, etc. Mais pas tomber dans les travers du match contre Clermont, où à des moments ça, on se sentait limite un petit peu trop facile ou ce genre de choses, et là où il va falloir être très efficace, que ça soit défensivement et aussi offensivement. Donc après tout va dépendre de l'effectif, franchement de l'effectif, de la compo. Est-ce qu'il va vouloir recommencer son 4-2-4 à ce moment-là? Est-ce qu'il va vouloir simplifier en mettant son 4-3-3? C'est surtout ça. J'aimerais bien voir mon petit Gonzalo Ramos là qui puisse être titulaire pour qu'il puisse enchaîner, qu'il puisse aussi prendre un peu plus de galons dans cette équipe. Donc ça reste à voir en tout cas.
Lolo, je sais que tu dois reprendre le taf peut-être, donc je te laisse nous donner ton prono et après tu peux nous laisser reprendre tranquille.
Je vois bien. Je vois bien un 3-1. 3-1 pour Paris.
C'est mon score favori, ça.
Ouais, je vois bien un petit 3-1 pour Paris ou pire un 3-0. Tu sais, tu t'imposes facile avec. T'as le temps de faire tourner un Kanginli qui va rentrer ou qui peut être titulaire, un Barcola qui va jouer, je pense. Un Ramos aussi qui va jouer. Donc, c'est des joueurs qui vont. Voilà, qui vont vouloir se montrer aussi. Donc, ce serait bien. Je pars pour un 3-0. 3-0 et Paris enchaîne avec un deuxième clean sheet de suite. Ça serait bien.
C'est parfait. Bah écoute, bon retour au taf. Bon après-midi et bon courage, Lolo. Merci d'être passé. Ciao. Dryas, vas-y, donne-nous ton prono. Est-ce que tu as déjà répondu? Ouais, tu as répondu. Ouais, vas-y, ton prono.
Je suis très mauvais en prono, mais je vais dire 2-0. 2-0, je pense qu'on va souffrir dans un premier temps. Brest peut être assez agaçant, sont capables de trouver des contres assez facilement. Et je pense qu'on va souffrir, mais je pense qu'au bout d'un moment, on fera la différence offensivement. Une fois qu'on en mettra un premier, ils s'ouvriront plus et qu'on en mettra un deuxième. Et je pense que ça s'arrêtera là.
Rico ?
Oui, je vois un peu la même chose que lui. Je dirais 2 ou 3-0 à choisir. Peut-être 3-0 et un but de Barcola, je pense.
Ok, moi je vais rester sur mon traditionnel 3-1, il finira par passer un jour comme j'ai toujours dit. je tenais à dire à Luis Enrique de redescendre un petit peu, de se calmer, d'arrêter de faire ses conférences de presse en même temps que nos lives, parce qu'on était là avant déjà, premièrement, et puis c'est pas sympa. Et du coup, pour ceux qui ont été fidèles et qui sont restés avec nous pendant le live, à la conférence de presse, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Comme on a vu dans les commentaires tout à l'heure, il y a Marquinhos qui est forfait demain. Donc effectivement, il ne sera pas là, il a une gêne aux adducteurs. Kurzawa, il est malade, mais bon, ça fait 3 ans qu'il est malade, c'est pas grave. Keylor Navas, indisponible, douleur au lombaire. Asensio, Kimpembe, protocole de reprise. Nuno Mendes, rééducation. Il y a eu quelques déclats de Luis Enrique, j'ai vu une tout à l'heure sur les 9, Où il y a sur Lee Kang-in aussi qui disait Lee Kang-in, on connaît parfaitement son niveau, il ne perd pas de ballon, il crée de la supériorité grâce à ses dribbles, il a qualité physique très haute en défense et en attaque, il peut nous apporter dans différentes positions, ailier droit, ailier gauche, dans l'axe, au milieu, faux neuf, sa polyvalence peut nous apporter. Après, il y avait un truc sur les deux numéros 9, mais je l'ai perdu, donc c'est pas grave, n'hésitez pas à aller suivre la conférence pour avoir plus d'infos. Il y a Jéré qui nous dit de toute façon elle n'était pas intéressante la conférence, donc vous avez bien fait de rester avec nous, c'était très bien. Bah écoutez les gars, on se dit demain, je ne sais pas si on va faire un live match, vous avez été pas très convaincant sur le fait de le faire dans les commentaires, c'est plutôt de ne pas faire de live, mais Kevin il voulait vraiment en faire un, donc je vais voir si on le fait quand même, bref. Et puis sinon rendez-vous au débrief
du coup, tu auras le débrief après.
Ouais, débrief à 15h05 dans tous les cas. Après, peut-être le live match, même si vous êtes 20 ou 15, c'est pas grave. Ce sera un petit live match entre nous, peut-être. On verra en avant si, sur la chaîne si je crée le live ou pas. En tout cas, messieurs, merci d'être avec nous, messieurs et dames, excusez-moi. Dryas, Rekoba, bah, merci d'être passé. Lolo,
avec plaisir
aussi.
Et puis, si tu vas avoir raison, Jean-Pierre Hassan.
Je vais avoir quoi ?
Puis-tu avoir raison, Jean-Pierre El Eissan.
Ah, il faut un but de Dembélé, nous dit Jean-Pierre. On va pas attendre toute la saison.
Comment ça
et Il a failli. Ouais, bah petit salut aussi à ceux qui nous écoutent sur les plateformes Spotify, je connais même plus les autres, Amazon Music et Deezer, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc continuez à écouter. S'il vous plaît, abonnez-vous à ces plateformes pour que ça développe le podcast. N'oubliez pas que ici, c'est Paris, les gars. Salut, ciao.
Ciao.